Dostoïevski, La confession de Stavrogin, chez Tiron, 1922. Nikolaï Fedorovitch Stavrogin ne dormit pas de toute cette nuit et resta assis sur le divan en fixant le plus souvent son regard vague sur un point vers le coin voisinant la commode. La lampe resta allumée toute la nuit. Vers 7 heures du matin, il s'endormit dans la même position. Et lorsque Alexei Yegorovitch entra dans la chambre à 9h30 précise, suivant l'habitude et apporta une tasse de café, sa venue réveilla le dormeur, qui, ouvrant les yeux, parut désagréablement surpris d'avoir si tard dormi. Il prit rapidement son café, se dépêcha de faire sa toilette, puis quitta précipitamment la maison. À la question timidement posée par Alexei Yegorovitch, « N'auriez-vous pas d'ordres à donner ?» il n'avait pas répondu. Stavrogin avançait, les yeux baissés, tout absorbé par ses pensées, ne levant la tête que par moments et pour manifester une vague mais intense inquiétude. Un carrefour peu distant de sa maison, une foule de moudjiks, une cinquantaine ou davantage, lui barra le chemin. Il marchait en rang silencieux et en bon ordre. Près de la boutique où Stavrogin dut s'arrêter un instant, quelqu'un dit que c'était les ouvriers de Spigoulin. Il y fit à peine attention. Enfin, vers 10h30, il arriva devant la porte de notre couvent de la Mère Dieu de Spasso et Fimieski, située à l'extrémité de la ville, près de la rivière. Alors seulement, il sembla se rappeler quelque chose, s'arrêta, tâta d'un geste fiévreux un objet dans sa poche intérieure et sourit. En franchissant l'enclos, il demanda au premier novice rencontré le chemin qui conduisait chez l'évêque Tiron, vivant en retraite dans le monastère. Après fort salut, le novice marcha devant. Au bout de la longue façade du bâtiment du couvent, se tenait auprès d'un perron un moine corpulent et aux cheveux gris, qui, écartant vivement le novice, s'empara du visiteur et, tout en continuant à saluer, le conduisit à travers un long corridor étroit. Gêné dans ses courbettes par son embonpoint, le moine inclinait d'un geste court la tête seule et invitait Stavrogin à le suivre, bien que celui-ci ne le quittât pas d'une semelle. Le moine multipliait ses questions et parlait du père archimandrite. N'obtenant aucun écho à ses paroles, le moine devenait de plus en plus respectueux. Stavrogin s'aperçut qu'il n'était pas un inconnu dans le monastère, bien qu'il ne se souvînât pas d'y être revenu depuis son enfance. Arrivé à la porte qui se trouvait au fond du corridor, le moine l'ouvrit d'un geste impérieux, demanda au portier si on pouvait entrer, et sans attendre la réponse, poussa le battant, puis le dos courbé, laissa passer le cher visiteur. Dès qu'il empocha la gratification, il s'éclipsa. Stavrogin entra dans une pièce étroite, où apparut au même instant, en s'arrêtant dans la porte de la chambre attenante, un homme de haute taille, sec, d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une soutane d'intérieur. Il avait l'aspect légèrement souffrant. Son visage effleurait un vague sourire et son regard avait une expression d'étrange timidité. C'était ce Tiron dont Nikolaï Fedorovitch avait entendu parler pour la première fois de Chatov et sur le compte de qui il avait depuis eu le temps de recueillir quelques renseignements. Ces renseignements étaient divers et contradictoires, mais avaient cela de commun que ceux qui aimaient et n'aimaient pas Tiron, où il y en avait, ne tenaient pas à s'étendre sur son compte. Ceux qui ne l'aimaient pas s'abstenaient par dédain, sans doute, et ceux qui l'aimaient, et il avait de chauds partisans, par une sorte de réserve, comme s'il voulait dissimuler quelque chose le concernant, une faiblesse peut-être, quelque étrange manie. Stavrogin apprit que Tichon s'était retiré au couvent depuis 6 ans déjà, et qu'il recevait aussi bien des gens du peuple que de hautes personnalités. Il avait des admirateurs ardents, des admiratrices surtout, jusque dans le lointain Pétersbourg. En revanche, il avait entendu dire à un vieux membre de son club, vieillard du meilleur monde et fort pieux, que ce Tyrone était presque fou, tout au moins un être nul, et sans doute aucun, un ivrogne. J'ajouterai, en devançant les événements, que cette dernière allégation était simplement absurde. En réalité, l'évêque avait des rhumatismes et parfois des crampes nerveuses dans les jambes. Stavrogin avait appris encore que l'évêque en retraite n'avait pas su, soit par faiblesse de caractère, soit par une distraction incompatible avec sa dignité, inspirer aux habitants du couvent le respect qui lui était dû. On assurait que le père archimandrite, austère et rigoureux dans l'accomplissement de ses fonctions de supérieur du couvent, connu au surplus par sa science, nourrissait même envers le père Tichon une sorte d'hostilité, lui faisait grief, indirectement sans doute, de sa vie déréglée et l'accusait presque d'hérésie. Quant à la confrérie du couvent, elle traitait le saint homme malade avec une certaine familiarité. Les deux pièces dont se composait le logement de Tyrone étaient assez étrangement meublées. Parmi de vieux meubles au cuir usé, on apercevait 3 ou 4 objets élégants. Un riche fauteuil de repos, un grand bureau finement ouvragé, une très jolie bibliothèque, des guéridons, des étagères que l'évêque avait reçues en offrande. À côté d'un riche tapis de Boukhara étaient déposées des nattes de tille tressée. Parmi des gravures au sujet mondain ou mythologique, se dressait dans le coin une grande vitrine à images saintes, étincelante d'or et d'argent, dont une antique icône contenant des reliques. D'après les on-dit, la bibliothèque n'était pas moins d'une composition disparate. À côté des œuvres des grands saints et des martyrs chrétiens, étaient rangés des livres de théâtre et des romans, peut-être pis encore. Après les premières civilités échangées avec gêne et hâte sans raison plausible, Tyrone conduisit son hôte dans le cabinet de travail, le fit asseoir sur le divan devant une table et prit lui-même place dans un fauteuil en osier. Nikola Vsevolodovitch, tout émotionné, continuait à se montrer fort distrait. Il donnait l'impression d'un homme résolu à accomplir un acte extraordinaire, inéluctable, et qui en même temps lui semblait inexécutable. Il examina pendant un long moment le cabinet de travail, visiblement sans rien apercevoir. Il songeait, et certainement, sans savoir à quoi. Il fut réveillé par le silence, et il lui parut soudain que Tyrone baissait les yeux pudiquement et esquissait même un sourire déplacé. Il éprouva aussitôt du dégoût et se révolta. Il voulut se lever et partir, d'autant plus qu'il crut Tyrone pris de boisson. Mais soudain, l'autre leva les yeux et le fixa d'un regard si ferme, si chargé de pensées, d'une expression si inattendue et énigmatique qu'il en fut saisi. Il lui sembla que Tyrone avait déjà deviné dans quel but il était venu, bien que nul au monde ne pouvait le savoir. S'il ne s'en parlait pas le premier, c'était parce qu'il le ménageait, craignait de l'humilier. « Vous me connaissez ?» demanda brusquement Stavrogin. Me suis-je présenté à vous en rentrant? Je suis fort distrait. Non, vous ne vous êtes pas présenté, mais j'avais eu le plaisir de vous rencontrer une fois, ou il y a 4 ans environ, ici au monastère, par hasard. Tyrone parlait lentement, d'une voix égale et douce, en prononçant distinctement les mots. J'étais venu il y a 4 ans dans ce monastère, demanda d'un ton désobligeant Nicolas Vsevolodovitch. J'étais venu ici, oui, tout petit, quand vous n'y étiez pas du tout. Peut-être avez-vous oublié, fit Tyrone sans trop appuyer. Non, 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 je ne l'ai pas oublié. Ce serait vraiment ridicule si je ne m'en souvenais pas, insista à outre mesure Stavrogin. Peut-être avez-vous simplement entendu parler de moi. Vous en êtes fait une certaine idée, il vous a semblé que vous m'aviez vu. Tyrone ne répondit pas. À ce moment, Stavrogin s'aperçut que des tics contractaient par moments son visage, témoignant d'un ancien affaiblissement nerveux. Ben, je m'aperçois que vous êtes un peu souffrant aujourd'hui. Il vaudrait mieux que je m'en aille. Il se leva, même de sa place. En effet, je sens depuis hier de fortes douleurs dans les jambes et j'ai mal dormi cette nuit. Tyrone n'acheva pas. Son hôte retomba souvent dans sa vague songerie de tout à l'heure. Le silence dura ainsi assez longtemps, 2 bonnes minutes. « Vous m'examinez ?» demanda soudain Stavrogin soupçonneux. « Non, je vous regardais, me remémorais les traits du visage de votre mère. » Avec une dissemblance extérieure, il y a entre vous une grande ressemblance intérieure, spirituelle. Non, aucune ressemblance, surtout spirituelle. Aucune, absolument, s'écria le visiteur avec inquiétude et insistance, sans savoir pourquoi. Vous le dites par pitié pour mon état. Des sornettes, ajouta-t-il avec brusquerie. Au fait, est-ce que ma mère vient vous voir ? Oui. Oh, je ne le savais pas. Elle m'en a jamais parlé. Souvent ? Oui, chaque mois, presque. Plus souvent, parfois. Mais jamais j'en ai entendu parler, jamais. Et vous, vous l'avez sans doute entendu parler de moi, comme d'un fou. Non, pas comme d'un fou, à vrai dire, mais d'autres personnes m'ont fait allusion à cela. Vous avez donc une excellente mémoire, si vous pouvez vous rappeler de pareilles vétilles. Et du soufflet que j'ai reçu, avez-vous entendu parler? Oui, quelque chose. Oui, c'est-à-dire tout. Vous avez beaucoup de temps, du reste, et du duel. Oui, du duel aussi. Vous apprenez ici bien des choses. Voilà où les journaux sont superflus. Et Chatham vous a-t-il entretenu de moi? Non, mais je connais parfaitement M. Chatham, bien que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce donc cette carte là-bas? Tiens, la carte de la dernière guerre. Mais quel besoin en avez-vous, vous? Je consulte la carte pour éclairer le texte. Très intéressante description. Montrez. Oh oui, c'est assez bien écrit. Étrange lecture tout de même pour vous. Il attira le livre et y jeta un regard. C'était une narration volumineuse, fort bien faite, des événements de la dernière guerre, au point de vue littéraire plutôt que militaire. Après avoir rapidement feuilleté le livre, il le repoussa d'un geste impatient. « Je ne sais décidément pas pourquoi je suis venu ici, » prononça-t-il avec dégoût en regardant droit dans les yeux Tyrone, comme s'il en attendait la réponse. « Vous semblez souffrant aussi. « Oui, un peu. » Et il se mit aussitôt à raconter en courte phrase brusquée qu'il était en proie, la nuit surtout, à des sortes d'hallucinations, qu'il voyait ou sentait parfois auprès de lui un être méchant, railleur et raisonnant, qui est en plusieurs personnes et en divers caractères, tout en étant une seule et même personne, et qui m'enrage toujours. Ces confidences saugrenues semblaient réellement venir d'un fou. Cependant, Nicolas Vsevolodovitch parlait avec une telle singulière franchise, avec une naïveté si contraire à sa nature, qu'on lui dit qu'il était devenu un tout autre homme. Il n'eut aucune honte de manifester la crainte du spectre qui lui apparaissait. Mais cela ne dura qu'un instant, et disparut aussi soudainement que cela était venu. « Bonne bêtise !» s'écria-t-il avec dépit, comme s'il reprenait ses sens. « J'irai voir le médecin. »« Allez le voir sans faute, » dit Tyron. « Mais vous parlez avec une telle assurance. Avez-vous déjà rencontré des hommes comme moi, ayant une pareille vision ?»«
J'en ai rencontré, mais fort rarement. Je ne me souviens que d'un seul cas, semblable au vôtre. Il s'agissait d'un officier qui venait de perdre son épouse, irremplaçable compagne de sa vie. De l'autre malade, j'ai seulement entendu parler. Tous les deux se sont soignés et ont été guéris à l'étranger. Mais vous, en êtes-vous depuis longtemps tourmenté ?
Depuis une année environ. Mais c'est sans importance. J'irai voir le docteur. En somme, des bêtises, d'énormes bêtises. C'est moi-même qui suis sous divers aspects, voilà tout. Puisque je viens d'ajouter cette phrase, vous allez certainement croire que je suis toujours dans le doute et ne suis pas certain que moi, c'est moi, et non pas réellement un diable.
Tyron le considéra d'un air interrogateur.
Alors, vous le voyez vraiment ? Demanda-t-il. Je veux dire, en écartant le moindre doute, que votre hallucination soit maladive, vous voyez réellement quelque image ? Mais c'est assez étrange de vous voir insister quand je vous ai dit que je vois.
Stavrogin s'irrita à nouveau, et son humeur croissait à chaque mot. Il reprit.
Mais naturellement, je le vois, comme je vous vois, vous. Parfois, je le vois sans être certain de le voir, bien que je sache que c'est la réalité. C'est moi ou c'est lui ? Bref, des bêtises. Mais pourquoi ne supposeriez-vous pas que ce soit un diable en chair et en os ? Ce serait plus conforme à votre profession, ajouta-t-il en passant brusquement au ton railleur.
Oh, il me semble plutôt que c'est maladif. Toutefois.
Quoi, toutefois ?
Les démons existent certainement, mais on peut le comprendre de diverses façons.
Vous venez encore de baisser les yeux, parce que vous aviez honte pour moi de ce que je crois au diable, et que, sous prétexte de ne pas y croire, je vous pose l'insidieuse question. Existe-t-il ou n'existe-t-il pas ? Fit Stavrogin irrité ailleurs.
Tyron esquissa un vague sourire.
L'autre reprit. « Et puis, il ne vous sied nullement de baisser les yeux. C'est maniéré, ridicule et peu naturel. Pour compenser ma façon grossière de vous parler, je vous dirai très sérieusement et avec impudence. Je crois au diable, je crois canoniquement au diable incarné, et non pas en allégorie. Et je n'ai aucun besoin d'interroger quiconque à ce sujet, voilà tout. » Vous devez en ressentir une grande joie, n'est-ce pas ?
Il eut un rire nerveux. Tyron le regarda curieusement de ses yeux doux et timides.
« Croyez-vous en Dieu ? »
demanda brusquement Stavrogin.
« Oui, je crois. Ben, il est dit, n'est-ce pas, que lorsque l'on croit et que l'on ordonne à la montagne de marcher, elle marchera. Encore des bêtises. Mais tout de même, je suis curieux de savoir. Pourriez-vous déplacer la montagne ou non ?
Si Dieu l'ordonnait, je la déplacerais, fit Tyron d'un ton réservé et abaissant lentement les yeux.
Ben, il ne s'agit pas de la déplacer avec l'aide de Dieu, non. Vous, vous-même, en guise de récompense de votre foi en Dieu.
Peut-être bien que je la déplacerai.
Peut-être, c'est pas mal, mais pourquoi doutez-vous?
Ben, je n'ai pas la foi absolue.
Comment pas absolue?
Oui, peut-être n'est-elle pas parfaite.
Vous croyez du moins qu'avec l'aide de Dieu, vous la déplaceriez. C'est bien assez.
C'est tout de même davantage que le très peu d'un autre saint homme, archevêque aussi, qu'il a prononcé sous la menace du sabre, il est vrai.
Vous êtes chrétien, certainement.
Mais de ta croix, ô Seigneur, que je n'ai pas honte, murmura Tyrone dans un souffle passionné et en inclinant sa tête plus bas. Les commissures de ses lèvres frissonnèrent nerveusement.
« Et peut-on croire au diable sans avoir une foi absolue en Dieu ?»
demanda Stavrogin avec un ricanement.
« Oh, certes, on le peut. Cela arrive bien souvent, » répondit Tyrone en levant les yeux et en souriant.
« Et je suis certain que vous trouverez une pareille croyance quand même plus honnête que la croyance totale. »
« Oh, le pop !» fit Stavrogin en s'esclaffant.
Tyrone lui répondit de rechef par un sourire et ajouta avec enjouement. « Mais au contraire, l'athéisme absolu est plus honnête que l'indifférence mondaine.
« Mortin, voilà comme vous êtes !»
Un athéisme complet occupe l'avant-dernier échelon du point culminant de la foi parfaite. Le franchira-t-il ou non? C'est une autre question. Tandis que l'indifférent n'a aucune foi, sinon la mauvaise crainte, et encore, s'il est un homme sensible.
Mais avez-vous lu l'Apocalypse?
Oui, je l'ai lu.
Mais souvenez-vous, écrit à l'ange de l'église de Laodicée.
Je m'en souviens, ce sont de belles paroles.
De belles, oh, singulière expression pour un évêque. En général, vous êtes un original.
Où est ce livre ? Demanda avec une étrange précipitation Stavrogin en cherchant des yeux sur la table.
Je voudrais vous lire l'endroit. Vous avez une traduction russe ?
Oh, mais je connais le passage, je m'en souviens très bien, fit Tyrone.
Vous le savez par cœur, dites ?
Stavrogin baissa les yeux, appuya les deux paumes de ses mains contre ses genoux en manifestant de l'impatience. Tyrone récita sans omettre un seul mot. « Écris à l'ange de l'église de Laodicée, ceci annonce, Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais quelles sont tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Oh, si tu étais froid ou chaud, mais parce que tu es tiède, que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis comblé de biens, rien ne me manque. Et tu ne sais pas que tu es lamentable et pauvre et misérable et aveugle et nu.
Assez, interrompit Stavrogin. C'est dit pour ceux qui sont du juste milieu, pour les indifférents, n'est-ce pas? Mais savez-vous, je vous aime beaucoup.
Et moi, vous, répliqua Tyrone à mi-voix. Stavrogin se tut et s'absorba de nouveau dans ses pensées. Cela lui arriva pour la troisième fois, comme pris par des crises. De même, à Tyrone, il avait dit « Je vous aime » dans une crise, du moins d'une façon inattendue pour lui-même. Une bonne minute s'écoula. « Ne te fâche pas !» murmura Tyrone en touchant timidement du doigt le coude de Stavrogin. L'autre tressaillit et fronça les sourcils avec irritation.
« Mais comment avez-vous deviné que j'étais fâché ? » demanda-t-il brusquement.
Tyrone voulut répondre, mais l'autre poursuivit avec une inquiétude irraisonnée.
« Et pourquoi avez-vous supposé que je devais absolument m'irriter ? Oui, j'étais furieux, vous avez raison, et précisément parce que j'ai dit « je vous aime ». Vous avez raison, mais vous êtes un cynique. Vous avez une opinion trop basse de la nature humaine. J'aurais pu ne pas avoir de colère si j'étais un autre homme. Du reste, il ne s'agit pas de l'homme, mais de moi. Et vous êtes quand même un original, un malade. »
Il s'irritait de plus en plus, et, fait étrange, ne se gênait plus dans l'emploi de ces termes.
« Écoutez, j'aime pas les espions, les psychologues, du moins ceux qui cherchent à s'insinuer dans mon âme. Je ne convie personne à y pénétrer. Je n'ai besoin de personne. Je sais me conduire tout seul. Vous pensez peut-être que je vous crains ?» demanda-t-il en élevant la voix et en redressant la tête d'un air de défi. Vous êtes parfaitement certain que je suis venu vous révéler un terrible secret, et vous l'attendez avec toute la curiosité de moine dont vous êtes capable. Bien sachez donc que je ne vous révélerai rien, aucun secret, parce que je n'ai nullement besoin de vous. »
Tyrone le considéra d'un regard ferme et dit : Vous vous êtes étonné du fait que l'agneau préfère les froids aux tièdes. Et vous ne voulez pas être seulement tiède. Oh, je pressens que vous avez quelque intention extraordinaire, terrible peut-être. S'il en est ainsi, je vous en conjure, ne vous torturez pas et dites tout ce que vous étiez venu dire.
Et vous étiez sûr que j'étais venu vous révéler quelque chose ?
Je l'avais deviné à votre visage, murmura Tyrone en baissant les yeux. Stavrogin pâlit légèrement, ses mains frissonnèrent. Durant quelques secondes, il fixa de son regard Tyrone en silence, comme s'il prenait une décision. Il retira enfin de la poche intérieure de sa redingote des feuillets imprimés et les posa sur la table.
« Voici des feuillets qui sont... « destiné à être répandu, » dit-il d'une voix entrecoupée. « Si ces feuillets sont lus par un seul homme, je n'aurai plus à les tenir secrets et tout le monde pourrait les lire. C'est décidé ainsi. Je n'ai nullement besoin de vous, car j'ai tout décidé. Mais lisez. On ne me dit rien pendant la lecture, et quand vous les aurez finis, vous me direz tout.
« Faut-il lire vraiment ?» demanda Tyrone hésitant.
« Lisez, lisez, je me suis décidé depuis longtemps. »«
Je ne pourrais pas lire sans mes lunettes. Les caractères sont trop petits. Cela a dû être imprimé à l'étranger. »«
Voici vos lunettes, » fit Stavrogin en lui tendant les lunettes qu'il avait trouvées sur la table.
Et il se rejeta pour s'appuyer sur le dossier du divan. Tyrone se plongea dans la lecture.